Divergence FM, l'interview.
Alors pour cette interview de société, on peut dire, j'ai le plaisir de recevoir dans nos locaux de Divergence FM, on est au 24 boulevard Pasteur, au plein centre de Montpellier, pas loin du Corum, j'ai le plaisir de recevoir donc Monsieur Darche, Raymond Michel Darche pour être précis. Vous êtes le directeur adjoint de la CPAM de Montpellier et de l'Hérault.
Je vous remercie de m'accueillir.
Eh bien écoutez, on est ravis de vous recevoir parce que c'est relativement rare que des gens de cette entité, on va dire, viennent communiquer. Et là, vous avez depuis quelque temps envie de communiquer un petit peu sur le travail de vos services par rapport aux arrêts maladie.
Oui, et puis je pense qu'on aura l'occasion de communiquer sur d'autres sujets, la sécurité
avec plaisir
sociale et notamment l'assurance maladie. Donc, intervient sur une multitude de sujets qui intéressent beaucoup de monde et la santé est un support très important de communication.
Bien sûr, et puis pour nos auditeurs, ils sont tous concernés. Que tout le monde est concerné par... parce qu'on a des idées un peu reçues. Vous savez, qu'est-ce que c'est que ce grand machin qui s'appelle la CPAM ? Eh bien, la CPAM, heureusement que vous êtes là, parce que je crois que ça sert à pas mal de choses.
Je vous remercie de le reconnaître. Mais on est là au service du public.
Au service du public. Et donc, on va plutôt aujourd'hui parler de ces arrêts de maladie qui sont quand même problématique dans notre pays, puisque les comptes de la sécurité sociale, comme on disait à l'époque, sont toujours difficiles à trouver un équilibre. On a fait de gros progrès, mais il faut faire toujours attention.
Oui. Alors, bon, on va pas stigmatiser, mais le poste des arrêts de travail est un poste qui a une croissance qui est importante. Et là, on est sur une réflexion de communication, prévention et action qui va, qui a débuté là sur le mois de juin et qui avait été entreprise donc l'année dernière au niveau de l'Occitanie et que nous reprenons donc cette année.
Voilà, vous reprenez parce que c'est bien gentil, mais comment faire pour financer ? Parce que ça coûte très cher, très très cher.
Voilà, je pense qu'il faut être donc très clair. L'argent qui est versé par l'assurance maladie sur les indemnités journalières dont la progression est très importante ne peut pas être versé sur d'autres postes qui nécessitent aussi un investissement.
Il faut faire des choix parce que si vous avez trop d'arrêts de maladie, vous ne pouvez pas aller plus loin dans les médicaments, par exemple.
C'est ça. Il y aura tôt ou tard des choix à faire et nous ne voudrions pas en arriver là. Et du coup, on organise des campagnes, campagnes informatives, des campagnes de prévention, voire des sanctions que nous pourrons prendre si nous constatons
des abus,
quoi, voilà.
Voilà, parce que c'est, faut bien savoir que celui qui se met en arrêt de maladie, bien entendu, la plupart du temps, c'est parce qu'il n'a pas le choix.
Bien entendu.
Mais hélas, il peut arriver aussi une sorte d'habitude, une sorte de on dire, s'il y avait un week-end, je resterais bien une journée de plus. Bon, je schématise, bien entendu, et je ne stigmatise pas tout les gens qui sont en arrêt de maladie. Mais hélas.
Je crois qu'il faut être clair. Loin de nous, dans l'idée de remettre en cause dans l'arrêt de maladie. Dans l'arrêt de maladie, c'est un des outils à la disposition des professionnels de santé qui le prescrivent à juste titre.
Les médecins, bien sûr.
La vraie question, c'est les dérives. C'est est-ce qu'il n'y a pas des dérives ? Pour moi, j'en identifie donc essentiellement deux. La première, c'est l'arrêt de complaisance sur de la courte durée.
On va voir son médecin référent, on lui dit écoute, ça ne te dérangerait pas, mais j'aimerais bien.
Voilà. Et le deuxième, et c'est surtout celui-là qui me préoccupe, c'est l'arrêt de longue durée. Donc, l'arrêt de longue durée me préoccupe pour une raison qui est simple, c'est que plus l'arrêt est long, plus dans la personne qui va donc en bénéficier
risque
de compromettre son employabilité.
Ce retour à l'emploi va être de plus en plus difficile, plus il va être longtemps en arrêt de maladie.
Voilà, et c'est là-dessus qu'on attire dans l'attention donc à la fois des assurés, des professionnels de santé, sur le fait qu'à un moment, il faut vraiment se concentrer sur donc, l'évaluation et l'utilité bien comprise. Il ne s'agit pas de remettre au travail des gens qui ne peuvent pas le reprendre, mais de chercher donc, avec les médecins traitants, les médecins conseils, les médecins du travail et les assurés, la façon de préserver le retour à l'emploi et d'aménager éventuellement le poste, si le poste doit être aménagé, donc en relation, donc cette fois-ci, avec l'entreprise.
Et la médecine du travail.
Voilà, et l'entreprise.
Parce que, par exemple, si quelqu'un a un handicap parce qu'il a eu un accident, etc., il ne peut pas reprendre son travail très facilement, on comprend très bien. Mais il y a un moment, soit il faut qu'il reprenne ce travail, soit il doit avoir un poste aménagé, mais il faut retourner vers l'emploi.
Voilà. Et ou si vraiment on ne peut pas, ben il y a d'autres statuts, oui. Je pense... à l'invalidité,
ce qu'on disait la côte Europe à une époque.
Oui,
hein, voilà.
Et là, bon, on doit donc être des facilitateurs, donc avec des institutions, donc comme la Maison du Handicap ou des partenaires qui vont reconnaître un état d'inaptitude à travailler.
Vous avez une fonction un peu de chef de gare, si je me permets.
Oh, c'est un peu du tri, oui.
Ah, vous devez orienter.
On guide, voilà.
Oui, parce que c'est très important. Ça,
notre rôle, c'est d'accompagner. C'est d'accompagner les assurés plus que de les sanctionner.
Ben voilà, je comprends bien. Mais maintenant, devant l'ampleur du phénomène en France, je ne veux pas citer de chiffres parce que les chiffres, c'est toujours très... c'est sujet à caution, surtout les journalistes aiment bien. Vous savez, journalistes, ils se mettent en tête actuellement, ça a une augmentation de... Non, mais on sait quand même qu'il y a une forte augmentation.
Il y a une forte augmentation. L'augmentation, si vous voulez, là, moi, je vais m'exprimer au niveau de l'Occitanie, parce qu'on est sur une opération qui est régionale. C'est une augmentation qui est supérieure à 5%.
Ce qui est énorme.
Et quand on sait que nous, en ce qui concerne donc l'Hérault et l'Occitanie, nous sommes une région... qui est importante dans le nombre de départements.
On a 13 départements,
voilà,
vous imaginez.
13 départements et les finances de l'assurance maladie ont une croissance naturelle, un taux naturel de croissance de l'ordre de 2%.
Oui, donc, et c'est fonction de l'emploi aussi,
voilà,
bien sûr.
Et vous voyez bien donc, l'écart entre 5% et 2% qui est compatible donc, avec la pérennisation du système. On voit bien qu'à un moment, s'il faut financer jusqu'à 5%, ce qui va être financé pour les indemnités journalières ne pourra pas l'être pour le reste.
Voilà, si vous perdez 3%, ben ces 3%, il faudra bien les retirer. C'est pour retirer le manteau de
c'est
Paul.
C'est basique, mais quelque part, c'est ça.
Mais on comprend très bien. Et donc, c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur et qui est préoccupant par rapport au système de santé. Tellement décrié par certains, mais tellement encensé par d'autres, et notamment dans nos amis européens qui trouvent que notre système de santé est extraordinaire.
Il faut avoir vécu à l'étranger pour apprécier le système français.
Voilà, moi j'ai vécu en Grande-Bretagne, figurez-vous. Alors je peux vous dire qu'on est à des années-lumière du système français.
Je crois.
Voilà. Mais maintenant, c'est sûr qu'on ne peut pas toujours créer du déficit.
Non.
Donc, il faut trouver les solutions.
Je dis, c'est un système de soutenabilité. Mmh. Ce qui est très compliqué dans l'indemnisation et dans le phénomène de l'arrêt de travail, c'est qu'il y a de nombreux facteurs qui se croisent et qui se multiplient. C'est, bon, en premier, c'est le travail donc, en lui-même, les conditions dans lesquelles le travail est exercé. Donc, il y a peut-être une réflexion de la part des entreprises aussi. Et puis, il y a de nombreux acteurs qui interviennent dans le processus. Il y a le patient, le médecin traitant. Il peut y avoir des renvois vers...
la médecine du travail, comme on disait.
Vers un spécialiste, un établissement d'hospitalisation. Et puis, il y a donc aussi, dans les circuits, la médecine du travail, les médecins conseils de l'assurance maladie et donc l'assurance maladie. Donc, ça fait beaucoup de monde et tout ça a peut-être un peu de mal à se coordonner.
À se coordonner. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de maladies psychiques, de plus en plus des maladies psychiques. Alors là, c'est difficile peut-être à évaluer.
Très difficile.
Très difficile. Où est le moment où c'est vrai, le moment où c'est...
On peut prendre un exemple simple. Donc, les deux pathologies qui reviennent et sur lesquelles on constate un développement qui est à la limite de l'incontrôlable, c'est les risques psychosociaux. Donc,
même le voir jusqu'au suicide.
Où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit. Voilà, donc ça, c'est, on ne peut pas ne pas prendre ces phénomènes à la légère, mais en même temps, pour le corps donc médical, très difficile de poser
l'évaluation, diagnostic à coup sûr. C'est très, voilà. très difficile. On a récemment, on a l'actualité avec le procès d'Orange, comme vous savez, qui est un procès un peu de managing, je ne sais pas comment on dit, très très dur et qui a entraîné à France Télécom à l'époque.
Ouais, une vague de suicide à l'époque.
Vague de suicide, on en a eu d'autres dans d'autres. On peut penser à Renault aussi.
Renault. Vous savez, lorsque ça se produit dans une entreprise, c'est un drame et on peut pas être insensible à ça. Mais en même temps, il y a
dans l'évaluation
donc médicale des failles. Et là, c'est très dur d'être sûr de son diagnostic à 100%. Et l'autre pathologie qui est un peu compliquée, donc c'est aussi la pathologie du dos, le mal du siècle.
On a mal au dos.
Et c'est bien pour ça que l'assurance maladie se lance dans une campagne de prévention sur les lombalgies. Mmh. Alors, en essayant de promouvoir dans l'idée de bouger. Mais bon, c'est vrai que ça peut paraître un peu contradictoire de dire à des gens qui sont cloués par la douleur de leur
bougez-vous.
Dire il faut se bouger. Quoi.
Voilà. Il faut répéter, faire quelque chose. Il y a aussi, c'est vrai, peut-être dans notre pays, un peu trop facilement, le côté on attend la cistana.
On médicalise beaucoup des choses qui pourraient ne pas l'être.
Voilà, on dit j'ai mal au dos, là je peux plus bouger, alors que peut-être un peu de piscine,
un peu de prise en charge par les personnes elles-mêmes. On peut faire de la prévention, on peut avoir une vie un peu plus saine et bon.
Oui, on peut peut-être aussi faire son jardin, si on a mal au dos.
Et toutes ces choses-là devraient contribuer à une prise de conscience.
Écoutez, en tout cas, je suis ravi de vous avoir eu au micro de Divergence FM. Divergence FM se fera un plaisir de vous recevoir à nouveau, vous ou de
bien
vos
sûr.
Collègues, bien entendu.
Écoutez, je vous en remercie.
Voilà, et puis donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, il suffit d'aller vous renseigner auprès de la CPAM.
Oui.
Vous êtes le directeur adjoint pour l'Hérault et vous appelez Raymond Michel Darche. Pas d'erreur toujours,
non,
parce que vous savez, ça peut arriver derrière nos micros.
En tout
cas, c'était très intéressant. Je pense que les auditeurs de Divergence seront ravis de vous avoir entendu.
Je vous remercie. Et puis, s'ils ont un intérêt sur ces questions, nous reviendrons. Ça ne sera peut-être pas forcément moi,
mais
la caisse primaire souhaite rentrer en contact avec ses assurés, les professionnels de santé et les employeurs.
Et puis nous sommes radio associative catégorie A, donc nous n'avons pas de publicité, et là, vous faites évidemment, vous êtes très loin de faire de la publicité.
C'est très bien.